Et ce dont j'aimerais parler ce matin, c'est sur le thème de l'attente. L'attente. La Bible parle d'attente. Elle parle d'attendre Jésus, d'accord? Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Nous attendons son avènement. Nous attendons qu'il revienne sur les nuées. Et nous attendons qu'il agisse chaque jour dans notre vie. Nous attendons qu'il agisse ici aussi. Amen. Et des fois, l'attente, elle est là. Et on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que l'autre jour, quand je suis rentré dans la salle, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a cette parole qui m'est venue, c'est l'attente. Il faut savoir attendre. Et alors, moi, vous savez, on a notre petit dernier à Annie et moi-même, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, hein. Le tout petit, là, il a un caractère carrément différent du premier. C'est qu'on a l'impression, des fois, qu'il sait attendre. Et des fois, il demande comme ça, il dit « Ouah !» Alors, il ne parle pas encore, il râle un peu, il ne parle pas encore, et puis on dit « Oh !» Il a faim, lui, hein. Alors, on le prend, on le met sur la chaise, et sur la chaise, il s'arrête. Et sur la chaise, il attend. Et sur la chaise, il ne fait pas que attendre, il n'est pas là, en fait, il regarde. Il observe. Qu'est-ce qui se passe? Ok, elle est en train de sortir le bol. Ok, on est en train de m'apporter la cuillère. Et ça y est, il est content. D'accord? Mais il y a ce temps d'attente. Il y a ce temps dans lequel, des fois, nous aussi, nous sommes placés dans cette salle d'attente. Sur cette chaise d'attente. D'accord? Où le Seigneur nous demande de savoir patienter. Savoir patienter pour le temps de Dieu. Savoir patienter pour l'œuvre de Dieu. Et vous savez, vous connaissez bien sûr ce qu'on dit hein, sur la manière dont Dieu répond à nos demandes. D'accord? Il y a trois manières selon laquelle Dieu répond. Il y a oui, non, et attend. Et en général, on n'aime pas trop la dernière. Mais c'est en général comme ça qu'il répond le plus. Parce que Dieu prépare quelque chose. Et la Bible mentionne souvent l'attente. Et là, elle la ramène aussi à la notion d'espoir et de foi. L'attente n'est pas séparée de cette notion d'espoir et de foi. Et des fois, on voudrait la foi sans avoir l'attente. Et souvent, la foi, on la trouve dans l'attente. Souvent, la foi, on la trouve dans la persévérance, dans ces moments où Dieu nous place comme ça. Vous savez, comme quand Lazare est mort et Jésus... on est venu dire à Jésus, mais Lazare est mort, vite, il faut y aller là-bas. Et alors les gens l'attendaient. Mais la Bible nous dit qu'il n'est parti que deux jours plus tard. Et il était là-bas, et Marthe et Marie, Marthe était déçue, elle dit, mais quand même, voilà, ça fait trois jours qu'il est mort. Il est là, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8 à partir du verset 18, alors je ne vais pas tout prendre peut-être, mais je n'insisterai plus sur le verset 25, mais du 18 à 25. Romains chapitre 8, verset 18, il est dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ça, c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Moi, Seigneur, je souffre, et tout ce qu'on me dit, c'est ben, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qu'on va connaître dans le ciel, à la gloire qu'on va connaître avec Jésus. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je vais passer. Or, nous, au verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais tous nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes et nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Et là, l'attente est comparée à cette souffrance que l'on peut vivre au quotidien. Cette souffrance dans laquelle on est, dans laquelle on dit, effectivement, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, où est-ce que tu me conduis? Où est-ce que je vais comme ça? Et on est dans cette attente, et il n'y a pas de réponse qui vient. Pas de réponse qui arrive à ce moment-là. Quand Daniel a entendu une parole de Dieu, il s'est mis à genoux, il a jeûné pendant 3 semaines. Et la Bible nous dit qu'un ange est venu à la suite de ça et lui a dit, depuis 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, je combats. Depuis 21 jours, je lutte. Et on n'a pas souvent, on n'a pas forcément cette compréhension du fait que quand des fois nous sommes en attente, Dieu combat pour nous. Dieu se met en marche pour nous. Cette attente-là n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et l'attente est en lien avec ce que nous ne voyons pas. Aujourd'hui, quand on parle d'attente, on parle plutôt de notre ennemi, d'accord? On n'a pas envie d'attendre. Et il n'y a rien qui nous invite à attendre. C'est plus un ennemi qu'un ami. C'est ennemi, d'accord, si en entreprise, la productivité. Pas attendre, d'accord? Il faut vite, il faut que les choses aillent vite, il faut qu'on soit sans cesse en train de faire quelque chose. La vie moderne, la société, le métro, boulot, dodo, tout ça nous dit, allez, vas-y, avance. Avance, ne recule pas, avance. Continue toujours d'aller de l'avant. Et pourtant, si on plante une graine, elle ne va pas pousser comme ça. Si on plante une graine, il va falloir attendre. Et quand on met un enfant devant une graine, comme ça, il plante la graine, il dit, ok, j'attends, écoute. Tu peux attendre un petit peu, là. viens, on verra. On va l'arroser, on va prendre soin de cette graine, d'accord? Mais tu peux attendre encore quelques temps. Tu verras pousser un petit truc, un petit rejeton, progressivement, tu vas voir, ça va pousser. Mais moi, je veux que ça devienne un arbre! Mais il faut des années pour que ça devienne un arbre. Il faut des années pour que ça puisse pousser. Et ça, c'est l'ordre naturel des choses. La nature prend son temps. Et lorsque Dieu a créé toute chose, il a pris son temps. Il n'a pas claqué des doigts et dit, voilà, hop là, il y a tout qui est créé d'un coup. Il y a du temps qui est passé. Le jour 1, le jour 2, le jour 3. Il y a du temps qui est passé et qui a été voulu par Dieu. Et il y a du temps qui a été passé où Dieu aussi a pris du repos. Où Dieu a su se reposer de ses œuvres. Mettre toutes choses à plat. Mettre toutes choses en repos. Et des fois, cette attente, c'est là aussi, où Dieu nous attend dans le repos. Aujourd'hui, attendre, c'est synonyme de quoi? Perte de temps. C'est synonyme d'ennui. D'accord? On s'ennuie énormément. J'ai pas envie d'attendre. Alors aujourd'hui, c'est facile parce que maintenant, il y a tout le monde qui est sur les téléphones. Le jour, il y avait Johan, il me disait, il a dit très très fort dans le RER, « Papa, regarde, lui, ils ont tous des téléphones. Ils sont tous sur leur téléphone. » Et lui, ils sont regardés. Il dit, « Ouais, moi aussi, les vois. Ouais, je suis là, d'accord, ok, bon. Bon, ben, je le range, hein. Ok, on va discuter, on va parler un petit peu. » Et dernièrement, il y a quelque chose d'assez étonnant que j'ai entendu et que j'ai aussi lu dans la presse. C'est qu'il y a des... alors, je ne sais pas si ce sont des scientifiques, en tout cas, ce sont des spécialistes qui ont dit que l'un des problèmes des enfants, c'est qu'ils ne s'ennuient pas assez. Alors, quand j'ai dit à Johan, j'ai dit, bah, mon fils, il faut que tu apprennes un petit peu à t'ennuyer. Il dit, mais je ne veux pas m'ennuyer. Alors, il déteste ça, il faut toujours qu'il fasse quelque chose. Mais des spécialistes ont dit ça, ça m'a surpris, j'ai entendu à plusieurs moments. L'un des soucis qu'on peut avoir avec les enfants, c'est que les enfants ne s'ennuient pas assez. Parce qu'au travers de l'ennui, cela sollicite leur créativité, ça sollicite l'innovation, ça sollicite l'imagination. Autant de choses qui, aujourd'hui, sont comblées par un rail dans lequel on surfe d'une information à une autre, et où notre pensée est un peu mise à l'écart. Où des fois, on pense plus fort. On ne sait même plus si on pense vraiment de nous-mêmes ou pas. Et on se laisse entraîner comme ça dans des rails, on ne sait pas forcément où. Parce qu'à un moment donné, notre pensée propre et la manière dont Dieu veut parler à notre pensée a été mise à l'écart. A été mise de côté. Et si Dieu nous a donné un cerveau, si Dieu nous a donné une pensée, c'est parce qu'il veut parler. il veut nous parler, il veut communiquer avec nous. Alors, il peut communiquer par les infos, par plein de choses, bien sûr. Mais il y a aussi ces temps où on est placé à part. Pour beaucoup, attendre, c'est ne rien faire. Alors qu'attendre, je ne crois pas, même si je reste comme ça, si je me dis je fais rien, il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Essayez un petit peu de faire, alors il y en a qui essaient de faire des vides dans leur tête et tout ça. Essayez de faire le vide, voilà. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors c'est, on se rend compte des fois dans la prière. On se rend compte des fois que quand on veut prier, il y a une pensée qui vient. Ah non, mais là, celle-là, c'est peut-être pas la bonne. D'accord? On va peut-être un petit peu se recentrer. Là, on s'en rend compte. D'accord? Mais savoir se recentrer sur ce que Dieu veut nous dire, sur se mettre à l'écoute. Et ça peut paraître étonnant, mais dans attendre, il y a le terme attentif. Il y a la notion d'être attentif. Attendre, ce n'est pas rien faire. D'accord? Dans Matthieu 26, Matthieu a, c'est Jésus qui parle aux disciples. D'accord? Vous vous souvenez de ce passage? Matthieu 26, Jésus, juste avant la tentation, juste avant que Judas ne vienne faire la grosse bise à Jésus, Jésus est pris vraiment dans la tempête. Il est dans le trouble. Et donc Matthieu chapitre 26, alors bon, je vais passer comme ça sur plusieurs versets. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, ainsi mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ensuite au verset 40, donc il retourne prier, ensuite au verset 43, il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta en s'éloignant, il pria pour la troisième fois, au verset 45, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Le moment était là, tout près. Et Jésus leur dit, restez ici, c'est-à-dire qu'il leur a demandé d'attendre. Il leur a pas demandé de venir forcément pour prier avec lui. Hein. Ce qui nous a dit, c'est, il leur a dit, veillez, priez, bien sûr, mais ce qu'il leur a dit, c'est, restez ici. Et veillez avec moi. Et on peut comparer cette parole à dire attendez. Attendez là et soyez attentifs. Veillez, si je mets un ordinateur en mode veille, c'est pour qu'il démarre plus vite, d'accord? C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton, clac, il est de suite là. Au moins, il n'y a pas tout le truc qui est long et tout ça. Il est en mode veille, c'est-à-dire qu'il est prêt à démarrer. Il est sur le qui-vive. D'accord? Et veillez. Dans l'attente, c'est être sur ce qui vive, être prêt à démarrer. C'est pas être dans une attente oisive, passive, c'est être dans l'écoute de ce que Dieu est en train de faire. Dans l'écoute et dans l'observation. Si je reprends le cas de mon fils, sur sa chaise, il est là en train d'observer. Alors il scrute, hein, je vous dis, hein. Il observe tous les faits et gestes qui se passe autour de lui, jusqu'à ce que le plat soit devant lui. Jusqu'à ce que le plat soit là. Alors là, il fait ça, il est content, et puis ensuite il mange. Et donc, c'est pas une attente passive. Alors, sur le sujet, j'ai pas une citation, parce que justement, je pensais au fait que ben, attendre, c'était être attentif. Et je trouve une citation qui résume un peu ce qui m'est venu un peu à l'esprit par rapport à ça. C'est un prêtre catholique, Laurent Santis, qui a écrit un livre sur saint Thomas d'Aquin, et qui a dit ceci au sujet de l'attente et de l'attente et d'être attentif. Il a dit, le français sépare les notions d'attente et d'attention qui sont pourtant formées sur le même verbe latin. Alors le verbe c'est attendere, je ne sais pas si je dis bien. Le mot attente évoque souvent une expérience très négative d'ennui et de perte de temps. Attendre son tour, file d'attente, etc. C'est l'occasion de retrouver le sens positif de ce verbe. Attendre, c'est être attentif. L'attention à autrui suppose que l'on sache attendre, que l'on se mette à son rythme. De même, par rapport à Dieu, être attentif à Dieu signifie attendre l'heure de Dieu, se mettre au rythme de Dieu. En sens contraire, le péché, déterminé comme défaut d'attention, apparaît aussi comme impatience et précipitation. Et finalement, l'impatience et la précipitation, c'est ce que l'on retrouve très, très souvent dans notre société. L'impatience et la précipitation. Il faut aller vite, il faut faire vite, il faut aller toujours plus vite, il faut aller toujours plus loin. Et Dieu, il appelle à savoir être patient. Attendre, c'est être attentif. Dans l'attente, il y a le fait de prendre garde à ce que Dieu fait. Vous vous souvenez de cette histoire dans 2 Samuel, de David, pris par les Philistins qui sont là, et Dieu lui dit, attends, il ne va pas de suite, tu entendras des bruits de pas dans la cime des arbres, et à ce moment-là, tu dois te hâter, tu peux y aller. Et c'est assez intéressant parce que là, précisément, Dieu lui a demandé d'attendre donc des bruits de pas, un signe, quelque chose de particulier. Mais le fait d'attendre, donc d'écouter, c'est-à-dire que j'imagine comment David était là, et donc Dieu est passé au-devant de lui, et donc a donné la victoire à David à ce moment-là sur l'armée des Philistins. Mais dans cette situation-là, Dieu a demandé à David d'attendre, mais pas d'attendre sur une chaise longue, d'attendre de manière attentive. Il était là, entendre les bruits de pas, je ne sais pas, mais voilà, on peut vite passer à côté, hein. Ok ? On peut vite passer, moi. Vous voyez, du bruit, déjà, c'est pas... Attendez les bruits de pas, et puis allez-y. Et dès que les bruits de pas se font entendre, il a dit, hâte-toi d'y aller. Les choses peuvent aller très vite, une fois que Dieu passe devant nous. Des fois, on peut attendre longtemps, mais quand c'est le moment de Dieu, quand c'est l'heure de Dieu, les choses se précipitent, effectivement, parce que Dieu passe au-devant de nous. Parce que Dieu précède nos pas. Donc cette attente-là, c'est une attente dans laquelle Dieu fait quelque chose. Dieu est à l'œuvre. Dieu se met en marche. Et on écoute les bruits de pas. On écoute ce que Dieu fait. C'est aussi une question d'obéissance. Parce que la Bible nous dit qu'à ce moment-là, David a obéi à Dieu. David a obéi à Dieu. Et toi, on voudrait faire ce que l'on veut. On voudrait prendre le devant. On voudrait... Allez, saisir, comme on dit, le taureau par les cornes. Parce que je suis fort, peut-être. Parce que je m'en sens capable. Parce qu'on sent qu'on est à la mesure de la situation, à la hauteur de la situation. Mais ce que l'on voit sur la situation n'est pas certainement ce qui en est vraiment. Et c'est comme ça qu'on se laisse diriger par notre regard. C'est comme ça qu'on se laisse diriger par ce que nos sens nous disent. Mais Dieu de diriger nos sens pour marcher à sa suite, pour être à l'écoute de ce que lui, il fait. Attendre, c'est encore faire silence. Quand David était comme ça, là, quand il devait écouter les bruits de pas, tu imagines qu'il ne devait pas faire un tintamarre. D'abord, il n'avait pas envie parce qu'il y avait les fils à part loin, bien sûr. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait silence. Il a écouté. Il s'est placé dans une situation où, effectivement, il était attentif à ce que Dieu veut, mais il a fait silence. Silence peut-être par rapport à ce que lui aussi voulait faire. Silence par rapport à ce qu'il était en train de faire. Ce qu'il aurait voulu mener, parce que c'était un chef de guerre, c'était quelqu'un qui savait mener des batailles. Mais il savait se placer devant Dieu, courber la tête, prier, et dire, Seigneur, passe au-devant de ma vie. Passe au-devant de mes situations. Passe au-devant de ce que je fais. Parce que ces situations-là sont bien plus grandes. Et nous sommes en mal d'écoute. Dans notre monde, où il y a tellement de tumultes, tellement de bruit, tellement de...
on est tous avec nos, on est souvent avec nos écouteurs dans l'oreille, toujours à écouter de la musique, toujours à faire ci, toujours à faire là, toujours à voir quelque chose, même quand des jeunes travaillent, il faut qu'il y ait de la musique. Et enfin, moi quand j'étais étudiant, je me souviens, j'avais essayé, puis ça marchait pas avec moi, parce que ça, je me suis rendu compte que d'un coup, quand j'arrêtais la musique, ça allait plutôt bien. Ça allait plutôt bien, mais il y avait des copains qui faisaient comme ça, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. Et ben non, ça distrait. Mais on est dans notre monde, on est tellement sollicité par beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de bruit, beaucoup de tumulte, beaucoup de tempêtes, beaucoup de tourments, qu'à un moment donné, on a besoin de dire stop. Quand cette tempête est là, on a besoin de dire stop. Fais silence, je vais écouter mon Dieu. Fais silence, je veux me mettre à l'écoute de celui qui a créé toutes choses. Et Dieu nous demande de savoir faire silence, de savoir faire une pause pour s'isoler. Aujourd'hui, les gens, c'est assez étonnant comme les gens trouvent toutes sortes de choses finalement pour revenir à ce que la Bible elle-même enseigne. On parle de méditation, que c'est bon pour la. Je ne sais pas si vous écoutez un peu les infos. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui viennent du bouddhisme, où on remet en avant la méditation en disant c'est bon pour le cerveau. Et la prière, c'est bon pour le cerveau aussi. Et ça, on n'en parle pas parce que c'est religieux, parce que ça met en question quelque chose d'autre. Alors que la méditation, ça recentre les choses sur l'homme. Effectivement, parce que lorsque Dieu nous demande de nous recentrer sur lui, c'est pour qu'il soit victorieux dans notre vie. C'est pour que l'on sache que lui est victorieux, pour que la gloire aille vers lui. Pour que l'on reconnaisse sa grandeur. Et beaucoup vivent des histoires de méditation comme des découvertes, des choses comme ça. Mais c'est pas nouveau. La Bible parle de s'écarter du tumulte, de se mettre à l'écart. Et pas juste de revenir à soi. Pas juste de revenir comme ça, comment est-ce que je vais, est-ce que je vais bien, est-ce que ça va, est-ce que je me sens bien, est-ce que si je vais étudier un petit peu ma personnalité, je vais voir un petit peu comment, ok, il faut que je corrige certains côtés, mais revenir à Dieu. Revenir à Dieu pleinement. Revenir dans nos pensées, dans notre cœur, pleinement et entièrement à Dieu. Pleinement et entièrement à chercher, comprendre, connaître, entendre ce que Dieu fait. Se mettre à son écoute. Dans Osée, chapitre 2, au verset 14, il est question du peuple de Dieu, comme d'une prostituée qui a été se prostituer avec des faux dieux, des baals, toutes sortes de choses. Vous savez, les baals, leur rituel, c'était avec de grands bruits, avec des rituels qui étaient très bruyant et Dieu parle par le prophète Osée. Il parle par rapport à ce peuple qui est considéré donc comme une prostituée, qui s'est dévoyée, qui ne s'est pas donné à son Dieu, mais qui s'est donné à d'autres passions. Il parle de cette épouse, pour lui c'est sa fiancée, celle qui chérit, son peuple qu'il aime, ses enfants qu'il aime. Et il dit de ce peuple, il dit, je veux l'attirer dans le désert. Je veux l'attirer et la conduire dans le désert. Et je parlerai à son cœur. Je veux l'attirer, la conduire dans le désert. Et je parlerai à son cœur. Et des fois, on dit, oh Seigneur, tu me fais passer par le désert. Oh, en ce moment, c'est difficile, hein. Je passe par des moments de désert. Comme si le désert était forcément négatif. Mais si vous avez déjà été dans des déserts, c'est vrai que ça, c'est un peu effrayant, c'est un peu inquiétant, parce que justement, on a tellement l'habitude d'entendre des choses, tellement de choses, que ce soit le bruit d'un oiseau, que ce soit un avion qui passe, que ce soit une voiture, que ce soit le vent qui passe, parce que quand on se retrouve dans le désert, et ça m'est arrivé, on avait un campement avec des bédouins en Israël, et de là, voilà, il ne fallait pas trop s'éloigner, mais moi je suis parti, et je me suis éloigné, et j'entendais, parce que le campement, il y avait des groupes électrogènes, donc j'entendais au loin, et je suis parti en direction d'une, jusqu'à ce que j'entende plus ça, et j'étais mal à l'aise, parce que le silence devenait assourdissant. pas un vent, pas un bruit, et ah, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude d'entendre le silence. C'était terrible. J'avais jamais pensé à ça. Le silence était devenu assourdissant. Ça me gênait. Et Dieu parle de son peuple comme voulant le conduire. Il parle de ses enfants comme voulant les conduire, l'attirer et les conduire dans le désert. Et là, je parlerai. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas... Voilà. On imagine souvent comment Dieu parle avec une grande voix. Oh, Moïse, je t'appelle. De là, tu vas aller voir. Enfin, on imagine souvent ça. Enfin, je veux dire, les films nous donnent... Alors, peut-être, mais... Seigneur, je ne peux pas aller voir Pharaon. Non, attends. Tu vas aller là-bas. Tu vas parler de ma part. Pourquoi ça ne se serait pas comme ça? Quand Dieu s'est présenté à Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Et on voit la différence que Dieu a voulu marquer par rapport à tout le tumulte qu'on peut connaître. Il a fait passer le vent, un vent violent, un vent bruyant. Il a fait passer le tremblement de terre. Et dans tous ces éléments-là, il a fait passer le feu. Et dans tout cela, la Bible nous dit Dieu trouvez pas là. Et un murmure s'est fait entendre. Et dans le murmure, une voix lui fit entendre ses paroles. Et on pourrait se dire que Élie a entendu des belles paroles, mais Dieu lui a dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? ça me fait sourire cette phrase, parce qu'on pourrait, on a toujours, Dieu est très simple. Et vous voyez ce que je veux dire? Dieu est doux. Dieu est doux. Il s'est chuchoté à notre oreille. Il y en a qui chuchotent à l'oreille des chevaux, mais Dieu s'est chuchoté à notre oreille pour faire plier notre volonté à sa volonté. Pour faire plier nos objectifs à ses objectifs. Pour faire plier notre vision des fois. Des fois prise dans tout un tas de pensées, et la libérer dans la pensée de l'esprit. La libérer dans la volonté de Dieu. Matthieu, Jésus le dit dans Matthieu chapitre 6, il dit quand tu pries, fais-le sur la place publique. Non, c'est ce que faisaient tous les gens qui voulaient se montrer. Quand tu pries, va dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Et là, le lieu secret. Prie Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui peut être démonstratif à l'extrême. C'est quelque chose qui se passe entre Dieu et nous. Faire silence. Être attentif. Faire silence. Et c'est clair. Quand Dieu parle, il chuchote. On a besoin d'être attentif. Il y a beaucoup plus d'exemples dans la Bible qui nous dit que Dieu chuchote plutôt qu'il ne parle très fort. Et en général, quand il parle fort, c'est parce que les gens n'ont pas à l'entendre. C'est des bruits, c'était parce que Dieu est tellement puissant. Quand il s'adresse à quelqu'un de manière particulière, c'est dans la douceur, c'est dans la beauté de la parole de Dieu. Et enfin, attendre, c'est aussi savoir persévérer. Quand Jésus et retourné vers le ciel. Dans Actes chapitre 1, verset 4, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, bien sûr, à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit, attendre que le Saint-Esprit vienne, et il leur demande d'attendre. Et ils ont passé 10 jours environ à attendre. Ils ont passé 10 jours à attendre, ils n'ont pas attendu un jour ou deux, ils ont passé 10 jours. Et il nous a dit au verset 14 du chapitre 1 de livre des Actes, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Alors, ils n'ont pas fait que ça, parce qu'ils ont aussi parlé par rapport à donc Judas et les plus disciples. Ils ont aussi, ils ont aussi, on va dire, tiré à la porte de Paris un autre disciple pour l'apostolat. Mais il vous a dit, dans, au verset 14, que tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Et c'est pas tous persévérer dans la prière. Et moi, j'aime bien les petits détails comme ça. Tous d'un commun accord. C'est-à-dire qu'ils se sont donné voilà, un objectif, on va prier et on va persévérer. Et on ne va pas s'arrêter. Jésus nous a dit d'attendre, on va attendre. Alors, c'est persévérer pas que dans la prière, la Bible nous dit aussi dans, au chapitre 2 qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, donc dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la vie de Dieu. Il persévérait sur ce cheminement. Et de même, la Bible nous dit que Dieu, Christ, a persévéré jusqu'à la fin. Et quand Christ a commencé son ministère, il avait quel âge ? 30 ans. Il avait dans les 30 ans. C'est-à-dire, il avait déjà un ministère à accomplir. Et auparavant, il n'était rien. C'était, pour tout le monde, c'était le commun des mortels. C'était un charpentier qui faisait bien son travail, voilà, on pouvait dire, voilà, c'est quelqu'un qui fait bien son travail, il est un bon charpentier. Et à 30 ans, il s'est mis en marche. Il a arrêté ça pour se mettre à l'œuvre, pour Dieu. Et il a su attendre, et il a attendu jusqu'à la fin. Donc le passage qu'on a lu tout à l'heure au début, donc, nous parle d'attendre avec persévérance. Savoir s'attendre à Dieu, malgré les épreuves, la souffrance, ou même les tentatives de découragement. Parce que du découragement, eh bien, on peut rencontrer. On peut rencontrer ça comme découragement. Ok, regardez ici. Vous ne laissez pas décourager. Mais on peut, voilà. Il y a diverses manières par lesquelles le diable peut chercher à nous décourager, que ce soit dans la vie elle-même, que ce soit dans les finances, que ce soit de diverses manières. Il faut s'accrocher fermement à cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Cette espérance que nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort. Dans persévérer, il y a aussi le mot sévère. Celui qui persévère, c'est celui aussi qui est sévère avec lui-même. Quant aux engagements qu'il a pris, quant aux objectifs qu'il s'est donnés, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Les premiers chrétiens, ils étaient sérieux dans la vie nouvelle qu'ils vivaient avec Jésus. On l'a vu, donc ils persévéraient sans cesse. Ils persévéraient malgré les difficultés. Et les difficultés qu'ils avaient, ce n'était pas juste des histoires de bâtiments, c'était des oppositions. Malgré les oppositions nombreuses, des fois violentes, des fois même certains, comme Étienne, sont morts, ils ont persévéré. Et pourtant, ce qu'ils ont demandé dans leur persévérance, c'est pas « Seigneur, ne nous fais pas vivre ça », c'est « Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance ». C'est-à-dire que, alors qu'ils auraient, voilà, humainement, on aurait pu dire, bon, ils sont en droit, et c'était l'objectif des autorités de l'époque, c'était de les décourager dans tout ce qu'ils vivaient, dans tout ce qu'ils connaissaient, c'était de leur mettre des bâtons dans les roues. Les autorités qui voulaient absolument les décourager, les faire fuir, les disperser de part et d'autre, et tout ce que ça a fait, ça a dispersé l'évangile comme les graines qui s'envolent avec le vent, semences là où elles sont plantées. Ça n'a fait que ratiser le feu, la flamme de l'évangile. Parce que chacun, chacune d'entre nous, nous sommes un flambeau pour Dieu. Ils auraient pu dire épargne-nous, Seigneur, mais ils ont dit donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Autrement dit, ils étaient portés vers l'avant, portés vers ce que Dieu faisait. Et Dieu leur avait dit allez, annoncez ma parole. De Jérusalem, du Samarie, enfin bon, ils annonçaient ma parole. Et ce qu'ils ont fait, c'est donne-nous d'annoncer. Ce qu'ils ont demandé, c'était en rapport à ça, c'est donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Ils répondaient à la demande du Seigneur. Et ils étaient concentrés là-dessus. Ils répondaient à ce que Jésus leur avait dit.
Amen, ça va? On va prendre un dernier passage dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc au chapitre 18, c'est un passage, voilà, ça, je pense que ça peut nous faire réfléchir. Matthieu chapitre 18 et verset 7. Chapitre 18 et verset 7 et 8. Nous est dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ça, c'est une question que Jésus pose. C'est une question que Jésus nous pose, parce qu'il dit « quand le Fils de l'homme viendra », c'est-à-dire que du temps est passé. Pourtant, Jésus dit « il leur fera promptement justice ». Le temps de Dieu, le temps des hommes n'est pas le même. Et c'est là que l'attente, c'est cette préparation que Dieu fait, dans laquelle nous restons attentifs, vigilants envers ce que Dieu fait, sachant faire silence et sachant persévérer. Jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Parce que Dieu lui-même, Christ lui-même, se pose cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À un autre endroit, il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Amen. Et nous voulons croire cela. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible pour les hommes, est possible pour Dieu. Est possible pour notre Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, tu es notre soutien, tu es notre force, notre objectif. Seigneur, c'est toi qui sollicites nos vies. C'est toi qui un jour, tu nous as tirés de la boue. Tu nous as tirés, Seigneur, des ténèbres pour nous attirer à toi. Et dans ces moments-là, Seigneur, très certainement on était attentifs, très certainement on avait tout à apprendre. Très certainement, on était là en train de dire, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me faire connaître, Seigneur? Et peut-être aujourd'hui, on n'est plus forcément dans cette attitude. Peut-être aujourd'hui, on se dit, je connais tellement de choses sur Dieu. Mais on a tellement de choses à découvrir encore. David ne s'est pas laissé avoir par ce genre de pensée, parce qu'il revenait sans cesse à toi. Même lorsqu'il péchait, même lorsqu'il était dans l'adversité, il savait se placer devant toi pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu veux faire? Alors Seigneur, nous te remettons, je te remets Seigneur, chacune de nos vies, nos objectifs, notre volonté, nos priorités, toutes choses Seigneur qui dans nos vies peuvent nous prendre du temps, peuvent nous prendre de l'argent, peuvent nous prendre Seigneur de l'écoute, peuvent nous prendre de l'attention, toutes ces choses Seigneur, toutes ces choses dans lesquelles Seigneur, toi tu voudrais nous placer hors du temps. Devant toi. Et je te prie, Seigneur, de fortifier le cœur de chacun. Que toutes les circonstances qu'on peut connaître, que ce soit les circonstances particulières de chacun d'entre nous, que ce soit les circonstances de l'Église, ne troublent pas notre vision de toi. Mais sache, Seigneur, nous courber devant toi plus encore. Là où le diable voudrait nous écarter, Seigneur, nous voulons venir devant toi et nous courber encore plus devant toi. Seigneur, et faire honneur à ta gloire. Faire honneur, Seigneur, à l'autorité qui est en toi et proclamer cette autorité, l'autorité de Jésus-Christ sur toute chose, que ce soit dans nos vies ou dans l'Église, dans la vie de notre pasteur. Seigneur, sur toute chose, nous proclamons l'autorité de Jésus-Christ. Nous proclamons que tu es roi. Et que ça, Seigneur, c'est quelque chose d'indéniable. Tu es roi et tu règnes. Et nous voulons, Seigneur, le proclamer en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'Église, en tant que serviteur, que servante, en tant qu'enfant, Seigneur, adopté, mais aussi qui loue ton nom, Seigneur, dans une pleine mesure. Et lorsque je repense à ce passage où, lorsque Pierre était en prison, Pierre et Silas étaient en prison, ce qu'ils faisaient devant toi, c'était de te louer. Dans l'adversité, nous voulons te louer.
dans l'adversité, nous voulons, Seigneur, face aux portes fermées, Seigneur, que nous pourrions voir de ce que nos yeux pourraient voir, nous voulons te louer, Seigneur. Parce que tu es celui qui peut briser les verrous de fer, qui peut briser, Seigneur, les portes de fer et donner la liberté à tes enfants pour te louer, Seigneur, bien plus encore. Merci, Seigneur, pour ce que tu accomplis dans la vie, Seigneur, de tes enfants, de nos vies, Seigneur, de ton Église. Seigneur, nous te remettons toutes choses et nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.